parti.
Pareil.
3, 2, 1. Bonjour Caroline, merci de me recevoir. On est donc à la pharmacie des Aigles à Gouvieux. Alors je suis venu te voir parce que je sais que tu es pharmacien depuis quelques années maintenant et j'aimerais qu'on parle du métier de pharmacien. Alors déjà, est-ce que tu veux bien te présenter?
Bonjour Stéphane. Alors, tu m'as présenté Caroline. Effectivement, je travaille à Gouvieux. Je suis installée en tant que titulaire depuis 3 ans. Tu veux que je dise d'autre?
Très bien, écoute, parfait. On va revenir sur le métier de pharmacien et comment on fait pour arriver à ce métier. Et donc, la première question, tu peux nous donner le cursus d'un pharmacien d'officine, donc quelles études pour arriver à ce métier de pharmacien d'officine?
Alors, pour être pharmacien d'officine, aujourd'hui, il faut passer par la première année qui s'appelle la PACES. Et puis après ça, tu as une première année concours, puis tu as 5 ans pour terminer ton diplôme de pharmacien. Et donc, tu as une spécialisation à partir de la 4e année où tu peux t'orienter soit vers la pharmacie d'officine, soit vers l'industrie, soit vers biologiste, soit pharmacien hospitalier. Et donc voilà, en tout, c'est 6 ans pour être pharmacien titulaire.
Donc 6 ans, tu termines tes études par une thèse, un doctorat en pharmacie.
Une thèse, exactement.
Une thèse en pharmacie.
Donc c'est comme un mémoire et que tu présentes à l'occasion de cette présentation, tu prêtes serment pour devenir effectivement pharmacien.
Oui, parce qu'on en reparlera après, forcément, métier dans le domaine de la santé, avec une éthique, des règles, donc tout ça est assez codifié. Alors, diplômé, docteur en pharmacie, maintenant, comment on fait pour s'installer? C'est quoi les étapes?
Alors, c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait valider sa 6e année d'officine avec son stage officinal de 6 mois, avoir passé sa thèse, et il faut s'inscrire sur la section A au niveau du conseil de l'ordre des pharmaciens. Et puis après, il faut identifier une pharmacie qu'on a envie d'acheter et puis justifier d'au moins 6 mois d'exercice avant de pouvoir prétendre à s'installer.
Donc, tout ça donc, est cadré, c'est contrôlé par le Conseil de l'Ordre. Je crois même qu'il y a un quota de pharmacie en fonction du nombre d'habitants. Hein. Ça, on peut pas avoir...
Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a à peu près 20 000 pharmacies en France et ça, c'est déterminé en fonction, effectivement, d'un bassin de population. Alors, ça évolue, je ne saurais plus te dire où on en est.
C'est juste pour avoir l'idée et on reviendra sur cette notion des 20 000 pharmacies puisque récemment, il y a eu une grève, on en reparlera un petit peu plus tard. Ensuite, l'étape, c'est de racheter une pharmacie. Alors, aujourd'hui, on en est où? Parce que racheter une pharmacie, c'est un marché... Vous l'appelez comme ça, qui évolue. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile, difficile? Est-ce que les pharmacies sont chères, plus chères qu'avant, moins chères qu'avant? Où en est le marché, on va dire, du rachat d'une officine? Souvent, on achète une officine qui existait déjà avant.
Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a plus de création d'officine aujourd'hui. Donc, on rachète une pharmacie qui est déjà créée en fonction, effectivement, de la population dont on a parlé. Il faut effectivement identifier une pharmacie qui a du potentiel. Donc, en général, soit on fait du porte-à-porte et on va un peu approcher les pharmacies qui nous intéresseraient, soit on passe par un transactionnaire, c'est un peu comme un agent immobilier pour les pharmacies, et on va évaluer un peu quelle est la capacité de développement de l'officine en fonction à la fois du développement de la population autour, la possibilité ou pas d'avoir des prescripteurs qui s'installent, parce que c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est un peu d'avoir un volume d'ordonnances qui est généré par les prescripteurs aux alentours de la pharmacie. Et puis voilà, de savoir si elle est déjà au maximum de sa capacité ou si on a des possibilités avec des travaux, avec une certaine orientation qu'on peut donner à la pharmacie pour pouvoir la dynamiser. Il y a quelques années, ça s'achetait 100% du chiffre d'affaires annuel, une pharmacie. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt autour de 80-85% du chiffre d'affaires.
Donc, il y a une évaluation du chiffre d'affaires et ça va baser un prix. Donc, voilà. Là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, la tendance est plutôt baissière. Une pharmacie se rachète ou se revend, suivant de quel camp on est,
ouais,
moins bien qu'il y a quelques années.
Oui, et puis ça, c'est beaucoup lié justement aux problématiques de déserts médicaux et du fait que il y a beaucoup de médecins généralistes qui partent en retraite, donc les prescripteurs qui s'en vont et qui font que du coup, les perspectives d'évolution des pharmacies sont plus vraiment à la hausse, quoi.
Donc ça c'est intéressant, on en reparlera après puisque je voudrais qu'on évoque les difficultés. On va continuer sur ce, on va dire, ce parcours du pharmacien en rentrant dans le cœur du métier, on va dire au quotidien. C'est quoi les rôles principaux du pharmacien d'officine?
Alors, le rôle du pharmacien à la base, c'est le contrôle, la validation des ordonnances, c'est la dispensation des médicaments dans le cadre du bon usage. Donc voilà, on est garant de tout ce qui est dispensé dans la pharmacie, que ce soit avec ou sans ordonnance. Donc d'adapter à la fois le bon traitement à la pathologie du patient, à la bonne posologie et puis sur la bonne durée de traitement. Le rôle du pharmacien aussi, c'est de collaborer avec les autres professionnels de santé du secteur pour assurer une bonne fluidité du parcours de soins. Donc on travaille aussi sur des actions de dépistage, de prévention de certaines maladies. On est impliqué aussi dans la vaccination. C'est aussi un axe qui a beaucoup évolué ces derniers temps.
On en reparlera un petit peu plus tard dans l'interview.
Voilà. Il y a aussi un volet participation à la permanence des soins. On assure les gardes les nuits, les week-ends.
Alors ça justement, je t'entends parce que j'étais très surpris en tant que bon parisien et n'ayant jamais connu un officinal dormant dans sa pharmacie, on toque à sa porte et moi ayant et toujours connu, alors pas souvent parce que j'ai pas eu besoin en urgence de médicaments, mais aller à des pharmacies qui sont ouvertes 24/24 sur Paris, dès qu'on sort de Paris, et a priori, enfin, sans que ça soit péjoratif, en province ou en tout cas
Partout en France.
partout en France, on va dire, donc l'officinal doit partager, les officinaux du secteur se partagent des gardes où il est présent dans sa pharmacie et doit répondre aux
Ça
demandes urgentes.
fait partie du rôle du pharmacien d'assurer effectivement cette permanence des soins. Donc on a, en tout cas sur mon secteur de garde, ça peut être organisé de façon différente sur d'autres secteurs, mais en ce qui nous concerne, on a une nuit par mois et 3 week-ends dans l'année en moyenne où on se doit de rester à la pharmacie pour répondre aux urgences, aux patients qui sortent des urgences hospitalières ou des SOS médecins, ou des urgences qui peuvent paraître moins graves, mais voilà, des parents qui ont plus de lait pour donner à leur nourrisson, et donc voilà, on est là pour répondre aux besoins.
C'est discutable comme urgence, mais bon, en tout cas, vous assurez cette mission
Santé publique.
de santé publique. Vous avez dit quoi avant?
Permanence des soins.
Non, j'allais en dire. Donc, en tout cas, vous assurez cette mission de permanence des soins. Alors, moi, je voudrais savoir, le métier a évolué. Récemment, il y a eu, alors, quand je dis récemment, on va dire dans les 10 dernières années, un petit peu moins, il y a eu des rôles supplémentaires qui ont été confiés aux pharmaciens. Et puis là, très récemment, puisqu'on est début juin et je crois que ça date de peut-être quelques
Début
mois, il y a
juin.
eu de nouveau encore des missions supplémentaires. Est-ce qu'on peut aller sur ce thème-là? Donc, on va dire depuis 1 dizaine d'années, avant les pharmaciens, vous avez de la délivrance de médicaments, c'était vraiment restreint à ça. Qu'est-ce qui est arrivé comme rôle supplémentaire qu'on vous a confié et comment ça se passe?
Alors, c'est vrai que ça accompagne un petit peu la désertification médicale, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui étaient avant dans l'escarcelle du médecin généraliste, qui viennent petit à petit plus dans les missions qui sont confiées aux pharmaciens, pour dégager du temps aux médecins aussi, pour gérer d'autres patients qui sont plus problématiques. C'est vrai qu'à la base, on nous a confié les entretiens pharmaceutiques sur un certain nombre de domaines, l'asthme par exemple, les patients qui étaient avec des traitements anticancéreux, les anticoagulants. Donc les entretiens pharmaceutiques pour des patients avec des pathologies chroniques comme l'asthme ou des patients avec des traitements anticancéreux, l'accompagnement aussi des femmes enceintes sur des conseils et faire un bilan.
Comment c'est l'accompagnement? Là, c'est bon,
De,
je n'ai rien.
ouais.
Non, je ne refais pas tout à fait.
Donc accompagnement des femmes enceintes. Donc voilà, à toutes les étapes de la grossesse et puis surtout sur toutes les médications que les femmes enceintes ne peuvent pas prendre pendant la grossesse.
Donc concrètement, l'entretien pharmaceutique, c'est quoi son objectif? Parce que là, tu me cites des situations de maladie chronique. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand tu reçois un patient qui a une perceuse?
Un patient qui a une perceuse, par exemple.
Qui te menace. Quand tu reçois un patient qui est asthmatique, par exemple, c'est quoi l'objectif de cet entretien pharmaceutique?
Alors, ce qui nous est demandé par les autorités sanitaires, c'est de faire des entretiens très formalisés, où on s'assoit pendant un temps donné avec le patient, théoriquement une demi-heure avec chaque patient, où on fait plusieurs fois dans l'année, par exemple pour un patient asthmatique, un bilan en fait de sa prise en charge, de là où il en est avec son traitement, là où il en est avec sa pathologie, et s'il a bien compris l'objectif de son traitement, les interactions médicamenteuses, etc. Donc, l'objectif, c'est d'assurer le bon usage du traitement et que l'observance du malade. Donc, on est censé faire plusieurs entretiens pharmaceutiques dans ce cadre-là avec les patients dans l'année.
Donc, ça, c'est du temps où tu n'es pas au comptoir, tu ne veux pas aider ton équipe. Donc, c'est payé, c'est rémunéré?
Alors, jusqu'alors, c'est vrai que c'est très chronophage. C'était pas très bien rémunéré parce qu'il fallait motiver les patients à faire ça plusieurs fois, à faire cet entretien plusieurs fois dans l'année pour espérer avoir une rémunération en fin d'année sous forme d'une ROSP. C'est un acronyme qui définit un niveau de rémunération en fonction des actes qui sont faits. Mais c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer et désormais, chaque entretien qui sera fait avec le patient sera rémunéré. J'ai plus le niveau de rémunération. J'ai l'assurance maladie qui m'a déposé un
document. On ne va pas mettre les chiffres. Ok, c'est rien.
Donc, voilà. Donc, au-delà des entretiens pharmaceutiques, avec le Covid aussi, on nous a donné d'autres missions, notamment en termes de dépistage, avec les TROD, donc les tests rapides d'orientation diagnostique. Donc, d'abord, les tests antigéniques pour le Covid, puis pour les angines.
Je me permets juste une prescription. Les angines, c'est quand on a mal à la gorge. Il peut y avoir des angines virales. Donc, en antibiotiques, il y a des angines où une bactérie est responsable. Et ce test permet de savoir si la bactérie est là. Et dans ce cas-là, l'antibiothérapie est indiquée. Et uniquement dans ce cas-là, donc voilà, ça vous permet ensuite de donner l'antibiotique si jamais le TROD est positif.
Exactement. Et de la même manière, dans le cadre des cystites, on a maintenant aussi la possibilité de faire des tests urinaires à l'officine pour les patientes qui se présentent avec des symptômes d'infection urinaire et de pouvoir orienter et de pouvoir même désormais, depuis très très récemment, prescrire des antibiotiques pour des cystites simples.
Alors justement, j'allais te demander, tu l'as dit, donc le terme est vraiment le terme de prescrire. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Vous avez maintenant une habilitation à prescrire.
Ouais. Alors, chercher le décret en fait.
Attends, je sais pas si je peux mettre.
C'était depuis le 17 juin.
Oui, c'est très récent. Donc c'est vraiment la prescription.
Enfin, donc effectivement, depuis le 17 juin 2024, on est désormais autorisé à prescrire des antibiotiques. En suivant un arbre décisionnel et des recommandations très claires dans le cadre des cystites et des angines bactériennes.
Donc bon, le terme de prescrire, c'est vraiment, on va dire, la même chose que le médecin. Donc ça donne le droit à délivrer le médicament qui est délivrable que sur ordonnance et aussi au remboursement par la sécurité sociale. Donc c'est vraiment une prescription.
Oui, mais qui est extrêmement encadré avec des recommandations et surtout qui se fait sur la base d'un test positif.
On entend bien que tout ça, c'est pour améliorer la prise en charge, surtout dans des situations où on a des déserts médicaux, et là où vous, officinaux, vous êtes présents et vous êtes acteurs de santé de proximité quand les médecins ne sont pas disponibles ou ne sont plus là. D'autres éléments qui ont été ajoutés à vos prérogatives ou en cours d'ajout, puisque là, on est en effet le 27 juin et il y a peut-être des choses très récentes.
On a la vaccination aussi qui est rentrée aussi dans nos missions. Vaccination, toutes les vaccinations à partir de 11 ans, en dehors des vaccinations du voyage.
D'accord, donc on va être sur des vaccinations du type rappel, hépatite B, ça n'a pas été fait,
Oui, la diphtérie, tétanos, polio, voilà. Et aussi important dans le cadre de la prévention, c'est du coup je l'ai perdu les infections chez les jeunes.
L'IST, l'IST.
Non, oui, mais le vaccin contre le
Ah,
papillomavirus.
oui, l'HPV, enfin le
Ouais.
vaccin tiens.
Donc le donc également aussi dans le cadre de la prévention, ce qui est important, c'est qu'il y a des vaccins qui sont encore sous-utilisés en France, comme celui du contre le papillomavirus. Et donc on a aussi cette mission de développer la vaccination chez les jeunes pour prévenir le papillomavirus. Quand dans certains pays, on est à 100% de la population vaccinée, chez nous, on est encore très très loin, ça fait partie de nos missions de santé publique de
Et on
participer à cet effort.
rappelle, je me permets de dire ça, que c'est un vaccin pas que pour les filles. On vaccine les filles et les
Et
garçons.
les garçons,
Alors je ne sais plus à quel âge, je vais me préciser.
à partir de 11
À
ans,
partir de nouveau.
voilà, entre 11 ans et 19 ans, et effectivement, c'est pour protéger les filles, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des conséquences du virus du VRS avec des cancers qui se développent chez les garçons.
J'ai vu en visitant la pharmacie, et tout à l'heure, si on a le temps, je rajouterai au podcast une petite visite commentée. J'ai vu une cabine dédiée à la téléconsultation. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta pratique par rapport à ça?
Alors, toujours dans le même esprit de répondre à la demande et aux besoins des patients en termes de suivi médical, c'est vrai que ça m'a tenu à cœur de mettre en place cette cabine de téléconsultation dès que je me suis installée. Et c'est vrai que ça répond aux besoins dans le sens où ça permet de voir un médecin dans les 15 minutes. C'est bien sûr pas un médecin qu'on a l'habitude de voir, mais il y a des outils diagnostiques, enfin des outils de suivi à distance qui permettent de regarder dans les oreilles, de regarder au fond de la gorge, de prendre la tension, donc qui permettent tout à fait une consultation à distance pour un certain nombre de pathologies. Donc cette téléconsultation, elle est ouverte à tout le monde et notamment aux enfants aussi à partir de 3 ans.
Il y a une rémunération sur cet acte-là, encore du temps où on passe pas derrière le comptoir, ou est-ce que c'est encore
Alors, c'est vraiment un service qu'on offre aux patients parce que ça nous, enfin, cette, la location de cette cabine, elle coûte aux pharmaciens et c'est rémunéré 1 € par ordonnance délivrée suite à la téléconsultation.
D'accord. Donc bon, il y a encore du travail à faire. On va reparler en fait de tous ces éléments qui évoluent et on redira un petit mot, mais j'avais fait un podcast sur la grève des pharmaciens qui avait eu lieu le 20 mai. Maintenant, si je te dis, c'est quoi la journée type d'un titulaire? Enfin, c'est compliqué comme question, mais bon, on va essayer de faire une journée type parce que...
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de journée type, donc c'est ce qui fait un petit peu l'intérêt du métier, c'est qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver au cours de la journée, et c'est souvent plein de surprises, surtout pour un titulaire, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus à gérer, voilà, une fuite d'eau, un frigo qui tombe en panne en pleine nuit. Donc non, mais la journée type, surtout en ce moment, c'est qu'on essaie d'arriver avant l'ouverture pour gérer les médicaments en rupture, tous les manquants de la veille. Et donc ça nous prend un certain temps, donc il vaut mieux qu'on s'y prenne précocement, donc avant l'ouverture de la pharmacie. Après, on passe beaucoup de temps au comptoir tout au long de la journée à délivrer les ordonnances, à conseiller les patients. Et puis après ça, le rôle du titulaire, il va varier en fonction de la taille de l'officine. Donc moi, je travaille, j'en ai pas parlé, mais je travaille dans une pharmacie qui est de taille moyenne, c'est-à-dire qu'on est 5 dans l'équipe avec 2 pharmaciens, 2 préparateurs et donc un titulaire, avec plus ou moins aussi des étudiants qui nous rejoignent par moment. Et donc dans le rôle du titulaire, il y a aussi la gestion du personnel, la gestion des plannings, le recrutement. Et la réalité, c'est qu'on bouche aussi beaucoup les trous, donc on passe beaucoup de temps au comptoir pour remplacer les gens qui sont absents. Voilà, on passe du temps dans la coordination avec les professionnels de santé du secteur.
Donc on parlait de rupture de stock, j'imagine, ça nécessite des appels aux médecins pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on substitue par un autre médicament, il faut son
Et
aval.
exactement. Donc effectivement, quand on trouve aucune solution pour pouvoir délivrer le médecin le médicament qui est prescrit, on fait appel au prescripteur, et parfois on met beaucoup de temps à avoir le prescripteur en ligne. Donc ça fait partie ouais, des choses qu'il faut gérer. Je sais pas de quoi tu veux que je te parle, sinon.
C'est bon, alors je vais juste remonter. D'accord, donc c'est clair. Alors justement, puisque tu as un tout petit peu évoqué les tailles d'officine, etc. Donc c'est quoi ton équipe officinale, ou une équipe officinale, c'est composé de quoi?
Globalement, c'est composé donc d'un titulaire, après avec plus ou moins des pharmaciens assistants qui vont épauler le titulaire et le remplacer quand il est absent, et notamment prendre la responsabilité de la délivrance des médicaments quand le titulaire est absent.
On rappelle qu'on peut pas ouvrir une officine et donner des médicaments s'il n'y a pas un pharmacien présent.
Il faut qu'il y ait toujours un pharmacien présent sur place pour avoir la possibilité de délivrer les médicaments. Et donc dans la pharmacie, on a aussi des préparateurs qui n'ont pas le même cursus d'études, mais qui vont globalement au quotidien faire un peu les mêmes tâches, c'est-à-dire dans la délivrance des médicaments. Mais tout ce qu'ils vont délivrer sera sous le contrôle du pharmacien. Et après ça, dans les pharmacies de taille plus importante, on peut avoir aussi des rayonnistes, des secrétaires. Voilà, des gens qui vont faire ce qu'on appelle du merchandising, c'est-à-dire mettre en place les rayons, voilà.
Oui, c'est vrai qu'on a vraiment tout type de pharmacie. Alors, il y a des petites pharmacies de quartier avec 2-3 personnes, petite surface, et puis on voit maintenant des pharmacies énormes. Je me rappelle en avoir visité une vers Bordeaux sur un rond-point où il y a même des caisses. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils avaient mis en place des caisses de sortie, où on sort avec son petit panier, et ça ressemble un peu au drugstore à l'anglaise, pardon. Et ça, forcément, il y a une équipe monstrueuse qui fait tourner ça.
Oui, comme dans un supermarché. Et puis, souvent, c'est des pharmacies aussi qui sont robotisées, avec, quand on tape l'ordonnance à l'ordinateur, les médicaments tombent dans des goulottes à travers voilà, la gestion d'un robot.
Mais voilà, il faut du volume et des chiffres d'affaires élevés pour pouvoir investir dans ce genre de matériel, dans des équipes plus grosses, etc. Donc, tu as répondu à ma question, je t'en remercie. Encore deux petits points, le dernier étant plutôt rigolo. Donc, récemment, on a eu une grève de quasi 90%, j'ai plus le chiffre en tête, des officinaux. Mmh. Ils avaient des revendications qui avaient déjà été posées il y a 2-3 ans, je ne sais plus. Donc, ils avaient les mêmes, en fait, en gros. Plus quelque chose qui les a un petit peu agacés, hein, c'est l'ouverture.
La menace d'ouverture du monopole.
Voilà, donc tu vas nous expliquer ça, ce monopole qui tomberait, c'est-à-dire que vous ne seriez plus les seuls habilités à délivrer des médicaments. En gros, on pourrait aller sur Internet en acheter. Donc, on va faire un espèce de récapitulatif de pourquoi cette grève, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous avez comme difficulté. Et on mettra aussi des choses qui étaient évoquées pendant la grève, d'ailleurs, j'y pense, parce que, donc voilà, quelles sont les difficultés qui ont mené à ce mouvement de grève? C'est rare que des pharmaciens fassent grève et portent close. Donc, pourquoi?
Oui, ça faisait de nombreuses années qu'il n'y avait pas eu de grève de pharmaciens. Et là, je pense que ce qui a déclenché la grève, c'était la pénurie de médicaments. Parce que on n'en peut plus, on passe en moyenne plus d'une dizaine d'heures par semaine à chercher des solutions pour pouvoir permettre aux patients d'avoir leurs médicaments. Donc on a l'impression un peu par moment d'être dans le tiers monde. On peut pas délivrer d'antibiotiques, on peut pas soulager les patients avec des antidouleurs sur certaines procédures, sur des interventions de articulaires ou des choses comme ça. On a des difficultés pour avoir des antibiotiques pour les enfants. Donc c'est vrai que ça je pense était le déclencheur de la grève. Maintenant, il y a autre chose, c'est que il y a le fait que c'est la rentabilité des officines. Il y a 300 pharmacies en moyenne qui ferment chaque année parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. En 5 ans, il y a eu 50% d'augmentation des charges. Donc les salaires, les loyers, l'énergie, tous les coûts annexes. Et dans le même temps, on a eu une baisse des prix des médicaments. On a perdu certains produits qu'on pouvait délivrer, notamment les produits de contraste qui sont passés maintenant chez le radiologue. Ça représente 2% du chiffre d'affaires d'une officine. Aujourd'hui, depuis 2024, on ne peut plus les délivrer. C'est les radiologues qui les donnent. Donc voilà. Donc il y a un impact sur la trésorerie des pharmacies qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et finalement, c'est vrai qu'il y a eu aussi une annonce du gouvernement sur une réflexion menaçant le monopole pharmaceutique et la possibilité de mettre en ligne les médicaments. Donc c'est vrai que quand on regarde ce qui a été entrepris par les pharmaciens depuis quelques années, et notamment avec le Covid, tout ce qu'on nous demande en plus, les missions qui nous ont été confiées en plus, l'investissement que ça a été pour tous les pharmaciens. C'est vrai que c'est aussi compliqué de comprendre pourquoi on menace notre monopole et on propose d'avoir les médicaments en ligne, alors qu'en France, tout un chacun a une pharmacie à moins de 10 minutes de chez lui, grâce au numerus clausus et à la répartition des officines sur le territoire.
Donc vous êtes encore une des rares professions de santé à avoir un vrai maillage sur le territoire, là où on sait que les médecins manquent, les spécialistes manquent, les services hospitaliers et les urgences ferment. Donc oui, c'est incompréhensible du coup.
On est le dernier professionnel de santé à être disponible pour les patients, sans rendez-vous, accessible gratuitement et à qui on peut vers qui on peut se tourner quand on a besoin d'un conseil de santé.
Donc c'est compréhensible et c'est très clair et on va suivre ça de près. Allez, on va terminer sur une note un peu rigolote. Si je te demande une ou plusieurs anecdotes à nous raconter que tu as pu vivre, expérimenter.
Alors, on recommence. alors, ce que je voulais partager avec toi, c'est que moi, ça a été une reconversion, en fait, l'officine pour moi. Et c'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup de sens à plein d'égards. Donc, par les missions de santé publique qu'on... Voilà. C'est compliqué à dire. Je recommence.
Allez, vas-y. Je couperai ça.
Alors, anecdote, le métier d'officinal, ça a été une reconversion pour moi, donc il y a 3 ans, et ça a été motivé par une recherche de sens. Et je trouve que c'est un métier qui a du sens à plein d'égards, par toutes les missions dont on a parlé, et qui sont des missions de santé publique qui sont importantes, mais aussi par la relation de confiance et de proximité qu'on établit avec les patients au quotidien. Et c'est vrai que cette relation, elle nous fait sortir souvent de nos missions, et ça nous arrive d'aller aider un patient à régler une télévision. Ça nous arrive d'être appelé en urgence un soir à la fermeture de l'officine parce que un patient peut pas se déplacer, il faut lui apporter ses médicaments. C'est aussi passer du temps à discuter avec Martine qui a plus toute sa tête et qui passe tous les jours pour nous demander si on n'aurait pas du lait, du yaourt ou de la confiture à lui vendre. Donc voilà, c'est cette proximité et ce lien qu'on crée aussi avec les gens qui donnent du sens au quotidien et qui nous fait nous sentir utiles. Donc voilà, on ne sait jamais de quoi la journée va être faite.
Et puis il y aura d'autres Martins qui peuvent venir demander d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on en parlait en préparant ce podcast, les gens ont besoin de parler, et surtout les gens malades. Aujourd'hui, les médecins, ils réduisent le temps de leur consulte, ils sont surchargés. Et au comptoir, c'est vraiment un endroit où les gens, surtout les gens âgés qui ont des maladies chroniques, peuvent s'exprimer, vous prenez le temps de les écouter, même si c'est pour raconter un bout de leur vie, c'est pour raconter un peu de quotidien sur leur état digestif, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de professionnels de santé qui sont disponibles pour l'écoute. Et ça, c'est du temps en fait que vous passez, mais qui rapporte rien en fait. C'est du temps là-dessus.
Ouais, c'est du temps qui est important, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur à mon équipe et à moi. C'est toujours d'être en recherche de solutions face aux problématiques qui sont évoquées par les patients. Si c'est un médicament qui leur manque, si c'est un problème d'accès à un médecin, on passe du temps, on essaie de trouver des solutions, et c'est ce qui est aussi gratifiant quand on sait que qu'on a pu être utile.
Écoute, merci beaucoup Caroline de m'avoir partagé. Je pense que c'est très clair. Je pense que maintenant on connaît bien le métier de pharmacien. Donc, et j'ai été content de visiter ta pharmacie des Aigles à Gouvieux. Et on va terminer par une petite visite. Je verrai si j'ai le temps de la mettre au montage dans le podcast, mais on va faire une petite visite enregistrée de cette pharmacie. Merci Caroline.
Merci à toi, avec plaisir.